de la peste, c'est considérable. Je veux dire, c'est une époque où la pulsion de mort est évidente, elle est manifeste, et où la mort fait partie du quotidien. Le christianisme, pendant ce temps-là, fonctionne du côté de l'Inquisition, à l'évidence. Il s'agit de continuer l'entreprise démarrée avec Constantin, c'est-à-dire d'asseoir le pouvoir du christianisme sur les âmes, donc sur les corps. Et vous avez, à partir de la période qui va nous intéresser, c'est-à-dire à partir du XIIe siècle, une façon de verrouiller qui passe par l'autorité, la force et la brutalité de l'Inquisition. Donc n'oubliez jamais que ces pensées-là, si elles sont discrètes, c'est aussi parce qu'elles peuvent conduire à la mort et il faut prendre en considération ces perspectives. On parle d'hérétique à l'époque et c'est un concept intéressant parce que l'hérétique, c'est l'autre, c'est celui qui ne pense pas comme nous. Ça peut être le chrétien, mais qui n'est pas chrétien comme il le faut. On n'est même pas dans une logique d'athéisme, on n'est même pas dans une logique de paganisme. L'hérétique, c'est un personnage qui ne peut pas permettre l'orthodoxie, et c'est donc l'ennemi absolu. Il s'agit de travailler à la fabrication d'une orthodoxie, et l'époque veut une orthodoxie, et elle suppose que tous les individus qui pensent ailleurs ou autrement sont des individus qu'il faut empêcher de penser ou interdire de penser. Qu'est-ce que c'est qu'un hérétique ? Comment est-ce que ça marche ? La définition est donnée dans le manuel des inquisiteurs. Je vous invite à lire ça, c'est toujours très intéressant. Vous avez un Bernard Guy qui en a écrit un, puis un Nicolas Emmerich, qui nous disent comment on doit mener des interrogatoires, ce que sont les hérétiques, ce qui les définit ou ce qui les détermine. Eh bien, un hérétique, c'est d'abord quelqu'un qui s'oppose à un article de foi. L'article de foi, ça peut être la Trinité, par exemple, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les conciles dont nous avons eu l'occasion de parler à l'époque de Constantin sont les occasions de définir une doctrine, de raconter ce qu'il faut penser officiellement, parce qu'à l'évidence, Jésus n'a jamais dit où était le Père, où était le Fils et où était le Saint-Esprit, qui procédait de quoi et comment quand on procède de l'un, à l'évidence, on est secondaire, si on est secondaire, on est inférieur, si le Père a généré le Fils, est-ce que le Fils est à égalité, à la même hauteur, ou est-ce qu'il est inférieur parce qu'il procède, enfin, toutes ces querelles qui ont donné ce qu'on appelait l'arianisme ou les nestoriens, enfin, tous les gens qui se sont battus à l'époque pour proposer, pas forcément imposer, mais proposer une autre vision du christianisme, eh bien tous ces individus-là, finalement, ils ont laissé des traces et on continue à être hérétique pendant des siècles parce que le christianisme ne s'est pas fabriqué en un seul jour et il s'est fabriqué parce qu'on a élu et retenu un certain nombre de thèses parmi d'autres qui étaient florissantes. Et il y a une efflorescence considérable. C'est dans cette efflorescence considérable que nous pouvons trouver une pensée hédoniste. Les fameux frères et sœurs du libre-esprit sont dans une logique de rapport à Dieu, à l'évidence, vous verrez quel Dieu et comment, mais à l'évidence, ce ne sont pas des athées, ce ne sont pas des épicuriens ou des matérialistes. Les personnages qui s'opposent à l'orthodoxie, ce sont aussi ceux qui s'opposent aux vérités déclamées par l'Église. L'idée, par exemple, que le Saint-Esprit ne procède pas du Père, quand l'Église a décidé, eh bien, à l'évidence, quand elle décide, elle est inspirée par le Saint-Esprit, c'est du moins sa position. Et puis, est-ce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle ne peut pas se tromper. Donc, s'opposer à une décision de l'Église, c'est aussi être hérétique, c'est-à-dire le bûcher, la torture et la suppression physique. Donc, ceux qui s'opposent aux articles de foi, ceux qui s'opposent aux vérités déclamées par l'Église, ceux également qui s'opposent au contenu des textes canoniques. C'est-à-dire qu'on a fabriqué, avec un certain nombre de textes, vous l'avez vu, un Nouveau Testament, des évangiles synoptiques, enfin un corpus qui se présente comme un Nouveau Testament. Ce Nouveau Testament dit un certain nombre de choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, enfin la Bible telle qu'elle est retenue par les chrétiens, alors vous êtes un hérétique. Par exemple, Dieu a créé le monde, à l'évidence c'est comme ça que ça s'est passé, dit la Genèse, eh bien il faut croire à ces choses-là. Jésus est incarné, il s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair, etc. Et il faut croire à ces choses-là. Si vous n'y croyez pas, vous êtes donc un hérétique. En fait, indépendamment des questions théoriques ou des questions d'analyse ou de réflexion, de théologie ou d'ontologie, l'hérétique, c'est d'abord celui qui s'oppose au clergé, aux prêtres et aux évêques et aux papes. À l'évidence, Dieu ne parle pas seul, il ne parle que par ceux qui sont censés exprimer sa parole, donc le clergé. On voit bien qu'à l'époque, les questions théologiques sont essentiellement des questions politiques. Quand vous prenez position sur la question de la théologie, à l'évidence, encore aujourd'hui, vous prenez position sur des questions politiques. Donc, le Moyen-Âge, c'est l'islam, l'islam conquérant, c'est le christianisme conquérant. À l'évidence, c'est difficile de penser, c'est difficile aussi de pratiquer la philosophie. Et à l'évidence, la philosophie à l'époque, c'est un électroencéphalogramme plat. Et pendant 5 siècles, à peu près, c'est-à-dire si vous cherchez des philosophes ou de la philosophie, elle n'existe pas. Entre le moment où, entre le 6e, 7e, 8e, 9e, etc., ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, il n'y a pas de philosophe à proprement parler. La patrologie ou la patristique, dont je vous ai dit qu'elle existait avec Tertullien, Origène, Grégoire de Nazianze et quelques autres, cette patrologie, elle a disparu, on a déjà tout dit, on est dans une période de mort cérébrale ou de mort intellectuelle, la philosophie n'existe pas, et